c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour passer ce week-end dans votre compagnie.
Putain, nous sommes le vendredi.
Ils veulent avoir leurs examens en fin d'année. C'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Voilà.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation
de la part du gouvernement ?
12 offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini,
ce maillot, connerie, cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui ?
Oh, René ! Tous les vendredis, c'est pareil, une télé explosée, hein ? La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. C'est bien. Là, on ne sait pas.
Ah,
mon micro fonctionne. Bonsoir. Puisque le micro fonctionne, il est 19h30, on est sur 102.2 FM, Radio Canyon, la plus rebelle des radios. Et c'est le Canyon Info du vendredi. On arrive tout de suite. On va commencer par le local en vous parlant d'une action en cours à Lyon-Villeurbanne qui correspond en plus à une action coordonnée à l'échelle nationale par les occupants et occupantes des lieux culturels.
Et puis on fera aussi une petite info sur le blocus au lycée Douaneau de Vaux-en-Velin.
Et il n'y a pas que la BAC qui est raciste, mais aussi en Isère, le département en profite pour encaisser les indemnités maladie des mineurs étrangers.
Et voilà, et du coup on vous parlera des ripostes par rapport à ces politiques iniques autour de l'immigration et notamment d'un camping déconfinant la frontière.
Ensuite, on passera au national. On ira à Milo, précisément, où 25 militants et militantes vidéo-verbalisés font face à la justice.
Et au national, toujours.
Vas-y.
Ah. Au national, toujours, on vous donnera quelques nouvelles des copains et copines qui ont été arrêtés le 8 décembre.
Et puis du côté de l'international, on ira en Colombie pour montrer que ni le Covid ni le confinement ne freinent les émeutes qui se déroulent depuis bientôt une semaine maintenant.
On vous parlera aussi du Mexique où il y a des féminicides avec les blocs négros, des black blocs féministes qui luttent contre le patriarcat.
Et on finira par un petit retour dans le temps puisqu'on vous parlera du 1er mai à Montréal puisque la manifestation y a intégré un technopôle.
Et comme d'habitude, on finira avec un agenda et peut-être même un ACAB. Si vous voulez nous appeler pour nous proposer un ACAB, il suffit d'appeler le 04 78 39 18 15.
15, bonne écoute.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette
semaine. Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulay.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Vaux-en-Velin.
Ce reportage sur la grève qu'on a dit à les
interjoués
pour la
base du rassemblement pour le
droit de Lyon.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Et oui, et toujours plus dans l'actualité, on commence notre rubrique locale par une action qui a eu lieu cet après-midi à Villeurbanne. C'était une action coordonnée à l'échelle nationale par les occupants et les occupantes des lieux culturels. Alors, comme ils ont constaté une surdité gouvernementale face à leur mouvement de contestation de la réforme de l'assurance chômage, du coup, les occupants des lieux culturels ont pris acte que ces occupations laissent indifférents les politiques et sont donc passées à la vitesse supérieure. On avait donc envie de vous lire un petit extrait du communiqué qu'ont sorti aujourd'hui les occupants et les occupantes du TNP qui ont donc occuper cet après-midi le centre commercial Carrefour. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent communiqué qui a été aussi distribué pendant cette occupation ? Nous avons réuni nos Robins et nos Robines des Bois dans les quatre coins du pays afin de faire pression sur le grand capital, ami proche de ce gouvernement, et redistribuer un peu de la richesse indécente des multinationales ou de la grande distribution aux précarisés. Pour cela, nous demandons à la direction de nous faire don du contenu de nos caddies pour que nous puissions aller les leur livrer. En attendant, nous asserrons un peu le tapis roulant de leur enrichissement. Nous sommes contre les inégalités grandissantes dans notre pays, contre l'exploitation des salariés et des sous-traitants, ici Cauchepart, de la grande distribution, cadence infernale, management par la terreur. La réforme de l'assurance chômage, qui va diminuer les indemnisations de plus d'1 million de travailleurs et travailleuses précaires, nous attaque au porte-monnaie, nos contre-attaquons au porte-monnaie. Nous, le mouvement Occupons Partout, qui, depuis l'occupation du théâtre de l'Odéon à Paris le 4 mars 2021, occupons 103 lieux culturels avec l'ensemble des professions de la culture, des gilets jaunes, des restaurateurs, des étudiants et des étudiantes, des précaires, des chômeurs et des chômeuses, des intermittents et des intermittentes de l'emploi, des syndicats, sommes ici ce jour pour qu'il y ait un relais médiatique national de notre mouvement national et de nos revendications communes. Et du coup, on a eu des petits échos, et donc cette opération Robin-Robine des Bois, qui a été coordonnée, aura permis une redistribution des produits de première nécessité offerts par Carrefour. C'est une première action de la coordination nationale contre la réforme d'assurance chômage, et on espère qu'il y en aura d'autres et que surtout, ils seront entendus. Et voilà, et du coup, on va aller d'un autre côté, et encore d'une autre lutte qui subit aussi le blackout médiatique. Heureusement qu'il y a les Canu Info. On va vous parler des blocages qu'il y a dans tous les lycées en France depuis une semaine. Alors, donc, depuis lundi, c'est dans toute la France que des lycées sont bloqués pour protester contre l'acharnement de Blanquer à vouloir maintenir le bac, malgré un an de confinement successif et de cours suivis de manière discontinue. Et donc, depuis ce lundi, jour de réouverture des établissements, c'est plus d'une centaine de lycées qui sont bloqués par des lycéens et des lycéennes qui refusent les modalités de passage de bac annoncées il y a peu par Blanquer. Donc ces blocages, ils sont pour protester contre ces modalités d'examen, mais aussi pour manifester leur colère et leur désarroi suite à une année qui s'est déroulée dans des conditions calamiteuses. Depuis un an, les lycéens et les lycéennes subissent violemment le manque de moyens dans l'éducation nationale, mais aussi des protocoles sanitaires largement insuffisants et voient les inégalités scolaires accentuées par la crise du coronavirus. C'est aussi contre une gestion gouvernementale dans laquelle ils et elles auront vécu le mépris pour leur santé et celle de leurs proches que les lycéens et les lycéennes se mobilisent, alors qu'on tente aujourd'hui de leur imposer de passer les épreuves du bac et des BTS. Ce qu'ils et elles dénoncent, à l'image d'Issia mobilisée à Balzac à Paris, c'est le refus de prendre en compte l'impact de la pandémie sur le déroulement de l'année scolaire. Et pour citer Issia, on est là parce que déjà normalement on a un bac inégalitaire. En situation de pandémie, on est très mal préparé. Les cours en distanciel n'ont pas pu être assurés. On n'a pas eu des cours adaptés. On veut une annulation des épreuves ou un passage en contrôle continu. On ne peut pas garder des épreuves normales dans une situation anormale. Ce bac est inégalitaire. On ne peut pas ne rien faire. À Aubervilliers, les lycéens et les lycéennes du lycée d'Alembert ont bloqué leur établissement avant de s'affronter à la police venue les réprimer. Dans de nombreux établissements, la réponse du gouvernement aura une nouvelle fois été celle de la répression, répondant par la matraque à la contestation sociale. Ce matin, c'est au lycée Douaneau de Vaux-en-Velin. Des élèves ont décidé de suivre le mouvement et de bloquer leur lycée. En réponse, la police a aussi chargé et envoyé les lacrymo. On va vous lire le communiqué du lycée Douaneau de Vaux-en-Velin. Depuis lundi, tous les lycées de France se mobilisent pour véhiculer un message de protestation envers la réforme Blanquer et la suppression de 2 épreuves du bac. Pour nous, passer le bac dans ces conditions serait injuste, étant donné que certains établissements passent en contrôle continu dans différentes disciplines. Durant ces 18 mois de scolarité, entre l'année 2020 et 2021, nous n'avons pas été entendus et sommes victimes de la réforme Blanquer. Donc voilà, ça c'était leur communiqué. Donc tout ça pour vous dire que la colère dans les lycées n'est pas anodine. Elle fait donc suite à une année complète où le gouvernement n'aura jamais cessé de naviguer à vue, au mépris de leur vie et des personnels de l'éducation nationale, sans jamais mettre en place un protocole sanitaire à la hauteur. Face à la mobilisation des lycéens et des lycéennes sur les réseaux sociaux puis au blocage de plusieurs lycées, le ministre a été obligé de consentir à quelques petits aménagements. Ces derniers restent cependant largement insuffisants. Pour la philosophie, la note du contrôle continu sera gardée si elle est meilleure que celle de l'examen et 4 sujets seront proposés à la place des 3 sujets habituels. Pour le grand oral, une partie de l'épreuve portera pour moitié sur un support préparé par l'élève. De plus, il pourra informer le jury des sujets qui n'ont pas pu être abordés en classe. Pour les épreuves de français, les lycéens et les lycéennes pourront choisir parmi 2 textes à l'oral de français. Ces aménagements restent bien faibles et passent totalement sous silence un autre volet, les problèmes liés au présentiel des épreuves. On a pu voir chez les BTS que si des élèves sont testés positifs au Covid-19, ils sont contraints de passer quand même les examens ou condamnés à avoir un zéro. C'est bien triste de ne pas suffire aux lycéens et lycéennes qui exigent le retrait des épreuves du bac en faveur du contrôle continu.
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestin.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border!
Et ouais, no border, no border. Et ben pour faire du no border, no border, c'est-à-dire pas de frontières finalement. Et parce qu'il y a un camping. Camping, vous me direz, c'est pas juste des vacances. Des fois, un camping, ça peut s'appeler déconfinons la frontière. Il y a donc un appel à se rendre toutes et tous dans la haute vallée de Suse, à toutes les personnes qui luttent contre toute autorité politique, économique, militaire ou même contre le capitalisme, le fascisme et le patriarcat, à construire du coup une mobilisation massive les 14, 15, 16 mai, c'est le week-end prochain. Pourquoi ça se passe ça? Eh bien parce que c'est 2 mois après l'expulsion de la Casa Cantoniera Occupata d'Ulx. Il ne reste que la frontière et ses gardes, du coup limitant la liberté et empêchant l'autodétermination des personnes en transit. Celles et ceux qui voyagent continuent d'arriver dans la Haute-Vallée pour partir en France. La violence et la répression à la frontière ne pourront pas arrêter notre colère ni la lutte pour effacer cette ligne imaginaire et infâme. Nous appelons toutes les personnes qui luttent contre toute autorité, bah, je vous l'ai déjà dit ça finalement, à vous rendre dans donc, la Haute-Vallée de Suse. Il y a bien sûr beaucoup plus d'infos sur un site qui s'appelle Passa Montana. Et du coup, on peut filer vers le national maintenant, ni une ni deux.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et voilà, vous êtes toujours sur le KNU Info et on est maintenant dans la rubrique nationale et on commence dans cette rubrique par aller en Isère. En Isère spécifiquement ou en Isère comme en France, il y a pas mal de mineurs isolés étrangers, aussi appelés mineurs non accompagnés. Et parmi ces mineurs, eh ben, y en a aussi bien sûr qui sont salariés en apprentissage et qui bénéficient donc, quand ils sont malades, d'indemnités. Mais tout ça, c'est en théorie, en tout cas en Isère. Parce que du coup, quand les apprentis tombent malades, ils ont le droit en France à des indemnités journalières comme n'importe quel salarié. Et donc, a priori, quand ces mineurs non accompagnés qui sont placés sous protection et tutelle des départements tombent malades, ils ont aussi bien sûr le droit à ces indemnités au même titre que tout le monde. Mais ça, c'est finalement pas si évident que partout. Puisqu'on apprend que le département de l'Isère capterait discrètement les indemnités de certains mineurs étrangers. Au lieu qu'elles tombent sur le compte bancaire des adolescents et adolescentes, c'est le département qui percevrait les sommes versées par l'assurance maladie, pouvant aller de quelques dizaines d'euros à plusieurs milliers d'euros sur la durée. Aux mineurs informés de leurs droits qui finissent par en demander la restitution, il faut parfois 6 mois, voire près d'un an, pour les récupérer. Et certains mineurs non accompagnés ne les ont probablement jamais reçus et ne les ont peut-être d'ailleurs jamais réclamés. Concrètement, comme partout en France, les jeunes étrangers auxquels le statut de MNA est reconnu par les services de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère sont confiés à des structures. Les jeunes mineurs sont confiés à des structures souvent associatives qui leur proposent un hébergement et les accompagnent dans les démarches scolaires. Beaucoup s'orientent vers des filières en apprentissage et accèdent du coup à une certaine autonomie financière. À la signature du contrat d'apprentissage, le département ouvre donc aux mineurs un compte bancaire sur lequel ils perçoivent leur salaire mensuel. Mais les services de la collectivité ne modifient pas systématiquement le RIB enregistré sur le compte de ces jeunes auprès de la CPAM. Des indemnités journalières donc d'apprentis qui tombent malades, qui sont victimes d'accidents du travail, tombent alors sur le compte du département lui-même. Alors ça, ça a été confirmé par l'assurance maladie de l'Isère auprès de Mediapart. C'est un article qui est paru sur Mediapart. Même si, bien sûr, de son côté, le département affirme reverser les sommes aux adolescents, adolescentes. En réalité, pour faire respecter leurs droits et récupérer leurs dus, les apprentis rencontrent des obstacles majeurs et doivent mettre en branle une procédure fastidieuse. Si elle existe sur le papier, elle s'avère bien sûr bien plus complexe dans les faits. Alors voilà, j'ai trouvé ça un peu hallucinant, alors je voulais vous le transmettre, et du coup on a trouvé avec mes camarades que la conclusion pouvait être « boue le département ».
Bouh. Et oui, boue le département et boue la vidéosurveillance, on le savait déjà, mais on se le rappelle tous les jours de plus en plus salement un peu. Et là du coup on va du côté de Millau, où 25 militants ont été vidéo-verbalisés et sont aujourd'hui face à la justice. Alors, d'où ça vient cette histoire? C'était en 2020. Il y avait 25 militants et militantes qui ont été verbalisés pour participation à des rassemblements interdits et qui ont du coup été verbalisés sur la base d'images tournées par des caméras. Ce 4 mai, ils ont comparu devant la justice pour dénoncer une forme de surveillance politique. La salle d'audience était pleine à craquer. Et donc, des manifestations en fait étaient organisées les 12 et les 22 mai 2020, donc juste à la sortie du premier confinement, pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire qui a été catastrophique. Ces deux rassemblements avaient pu se tenir dans le calme et sans que les protagonistes ne soient inquiétés par les forces de l'ordre présentes. C'est seulement quelques semaines plus tard que les 25 manifestants et manifestantes ont reçu à leur domicile des amendes. Des contraventions basées uniquement sur des photos et une identification par la vidéosurveillance. Pour leur avocat, Julien Brel, ces prunes visent surtout à mettre la pression sur des militants opposés au gouvernement. Donc dans ce dossier, les 25 qui ont reçu ces contraventions sont d'ailleurs caractérisés par leur activité militante ou politique. Ils ont mêlé une liste des municipales, la liste alternative écologique et anticapitaliste dans ce dossier, où ils ont mis les photos de toute la liste, alors que les trois quarts n'étaient pas à la manifestation. Et alors du coup, pour l'avocat de la vidéosurveillance, ils disent « on utilise les moyens d'investigation de la police judiciaire pour une forme de surveillance politique ». L'avocat n'aura finalement pas l'occasion ce mardi de développer son argument devant le tribunal qui s'est déclaré incompétent d'un point de vue territorial. L'affaire sera donc jugée plus tard au tribunal de Millau si le ministère public le juge nécessaire. Donc les 25 amendés sont ressortis de la salle le sourire aux lèvres puisque près de 200 personnes les attendaient sur un coin de trottoir devant le tribunal. Donc face à la foule, une des personnes qui avait été verbalisée a dit « on continuera à dénoncer ce gouvernement qui réprime à tort et à travers tous les gens qui osent s'opposer ». On voit surtout que la vidéosurveillance, ça ne sert pas vraiment à résoudre des enquêtes, mais ça sert toujours à afficher, voire à criminaliser des manifestants.
Et alors, boue le département, boue la vidéosurveillance, et maintenant, boue la DGSI, parce que je vais vous donner du coup quelques nouvelles des personnes qui ont été arrêtées le 8 décembre. Pour rappel, le 8 décembre, et ben du coup, c'est cette grande entreprise antiterroriste qui a permis d'arrêter... plusieurs personnes, enfin 7 personnes plus 3, mais bref, en gros une dizaine de personnes dans toute la France, en même temps, à la même heure. Pourquoi ? Pour avoir construit un groupe qui peut-être pourrait éventuellement faire des attentats. Sachant que ce groupe n'avait pas fait d'attentat, n'avait pas de projet d'attentat, et n'avait même pas de quoi faire des attentats. Voilà, du coup, depuis le 8 décembre, il y a des personnes qui sont en taule parce que peut-être ça aurait été possible que dans leurs idées, un jour, elles ont envie de faire des attentats. Mais du coup, là, je vais vous lire un communiqué qui a été écrit par un groupe de soutien de personnes qui ont été incarcérées le 8 décembre et du coup qui se trouve plutôt à Toulouse. Ces personnes-là, mais il y a des personnes dans toute la France qui ont été arrêtées. Du coup, c'est a priori difficile d'avoir des nouvelles directes et fraîches. Ce qu'on peut dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 des 7 personnes qui ont été arrêtées qui sont considérées encore comme des DPS, donc les DPS, c'est des détenus particulièrement surveillés. Et l'une de ces personnes est toujours à l'isolement depuis le début de son incarcération, du coup depuis le 8 décembre à l'isolement. 2 personnes sur les 7 ont été libérées sous contrôle judiciaire le 23 avril, mais sont toujours poursuivies. Et il y avait deux autres personnes qui avaient été arrêtées ce jour-là, qui avaient été juste mis en garde à vue et qui ensuite avaient été ressorties, et ben, elles sont toujours sous contrôle judiciaire. Les personnes mises en examen sont toujours régulièrement interrogées par le juge d'instruction. Et par ailleurs, il y a deux autres personnes qui ont été arrêtées le 8 février, qui ont passé trois jours en gave avant d'être relâchées pour l'instant sans suite. Et du coup, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a des personnes, voilà, du coup, ces personnes-là sont arrêtées, mais sans lien avec l'affaire. Il n'y a pas de statut clair, elles ne sont ni témoins, ni témoins assistés, ni mises en examen, mais elles sont quand même un peu surveillées, quand même, des fois, certaines sous contrôle judiciaire. Et il y a aussi plein d'autres personnes qui reçoivent des convocations à la DGSI en tant que témoins, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis d'autres qui ont fait des demandes de parloir, qui aussi sont convoquées comme témoins à la DGSI, et on leur dit que leur demande de parloir sera conditionnée à leur présentation en audition comme témoin. A priori, du coup, l'instruction est toujours en cours, le matériel informatique saisi est en train d'être analysé, les interrogatoires continuent, ce qui laisse penser qu'il y a encore plusieurs mois d'instruction et que le temps sera long avant qu'il y ait un procès. Impossible de donner une idée du coup de la fin de la détention provisoire des personnes du côté de ce comité de Toulouse. Pour les personnes qui sont incarcérées, le temps commence à être très long. Chaque tôle étant un enfer différent, les conditions sont particulièrement rudes à cause des mesures Covid, mais aussi à cause du statut de détenu particulièrement surveillé, ou pire, à cause de l'isolement. L'isolement a de nouveau, fin avril, a été renouvelé de 3 mois par la direction de la tôle pour celui que la DGSI désigne comme le chef. Donc l'isolement, ça signifie qu'il ne peut pas être en contact avec d'autres détenus, qu'il est seul en cellule, qu'il est systématiquement accompagné d'un gradé quand il sort de sa cellule, et que les matons sont ses uniques interlocuteurs en dehors des parloirs, parloirs dont il doit effectuer lui-même les demandes pour pouvoir les avoir. Et donc bien sûr, alors ça c'est pour tous les détenus, il y a des fouilles à nu systématiques avec chaque contact avec l'extérieur, rendez-vous médical, parloir et compagnie, ainsi que des fouilles de cellules lors duquel le personnel peut confisquer leur matériel d'écriture, les courriers et compagnie et compagnie. Les personnes qui sont en contrôle judiciaire ont interdiction de communiquer avec les autres, alors que les personnes incarcérées ont le droit. Seulement, pour les personnes incarcérées, ils ont tellement peur qu'ils ne le font pas. Parce que, a priori, selon la DGSI, les liens d'amitié sont assez vite interprétés comme des relations d'influence, d'insubordination. On pense qu'on va juste voir ses potes et en fait, peut-être qu'on est en train de, peut-être éventuellement, un jour, envisager de peut-être commettre un attentat. Ce qui est compliqué pour les personnes à l'extérieur, c'est qu'il y a très peu d'infos sur ce dossier. Sur aussi les volontés en fait des proches des personnes inculpées, sur les différentes stratégies de défense, parce que les soutiens sont très éloignés géographiquement, que certains parloirs d'amis sont possibles seulement depuis peu, et comme l'instruction est toujours en cours, ça limite certaines dynamiques, parce que les personnes ont peur de, si elles commencent à, les personnes soutiens ont peur de mettre plus en galère les personnes incarcérées ou les personnes en contrôle judiciaire. Le comité de soutien de Toulouse dit qu'il patauge, mais qu'il s'accroche, qu'il continue à croire en la défense collective. Pour ce comité, c'est celle qui est la plus pertinente et politiquement raccord avec les pensées et pratiques anti-autoritaires. Mais que c'est aussi plus compliqué parce qu'il faut prendre du temps pour la définir, l'expliquer, chercher des pistes pour l'appliquer dans cette situation. D'autant plus que le juge refuse de donner l'accès au dossier aux personnes mises en examen. Seules les avocates désignées ont le droit de regarder le dossier et ces avocates sont soumises au secret de l'instruction. Ce qui réduit vachement les infos qui peuvent sortir. Ce dossier, du coup, pour dire, il est construit autour de la surveillance qu'a mis en place la DGSI sur une des personnes, du coup, que la DGSI considère comme le chef, qui était parti combattre au Rojava il y a quelques années. Cette surveillance serait systématique, d'après la DGSI, auprès de toutes les personnes qui reviennent du Rojava. On peut du coup bien sûr penser à cet article de Mediapart en septembre 2019 dans lequel la DGSI confiait ses inquiétudes sur ce qu'elle appelait les revenants du Rojava. Et du coup ça préparait un petit peu le terrain pour justifier les surveillances et arrestations à venir. Ce qui est du coup d'autant plus compliqué, c'est que le dossier d'instruction est bourré de notes blanches, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment les informations ont été obtenues, d'où elles viennent, et est-ce qu'on peut vraiment compter dessus, et est-ce que les avocats et les avocates peuvent avoir notion de ce qu'il y a dans ces notes blanches. Aujourd'hui, grâce à cette instruction antiterroriste, toutes les vannes sont ouvertes à la DGSI. On imagine que la surveillance s'est élargie au-delà des 7 personnes qui ont été mises en examen pour accentuer la pression sur les espaces dans lesquels il et elle gravitaient auparavant, du coup sur des personnes qui s'organisent et partagent des pratiques anti-autoritaires qui, pour la DGSI, sont une menace à l'État. Du côté du comité de soutien de Toulouse, il et elle ont malheureusement du mal à voir une quelconque menace sérieuse contre l'État dans le cadre des personnes qui ont été mises en examen. À Toulouse, ce groupe de soutien s'est restreint aux personnes des proches inculpés et il y a différents moyens de les soutenir. Alors si on habite à Toulouse, il y a un atelier d'écriture collective aux prisonniers et prisonnières une fois par semaine, je crois. Et sinon, il y a deux caisses anti-REP qui s'appellent Calimero et Cage qui vont essayer d'assurer un soutien financier pour les proches, pour les mandats, pour les colis, pour payer les avocats, les avocates. Et du coup, le comité de Toulouse invite les collectifs et les personnes solidaires à prendre contact avec ces caisses anti-REP. Si jamais vous voulez plus d'infos, vous pouvez écrire un mail à l'équipe toulousaine à l'adresse mail qui est laissez-nous-danser@riseup.net. L'équipe précise qu'il et elle ne répondront pas aux sollicitations des journalistes et ne communiqueront pas par mail plus d'informations concernant l'affaire et les inculpés que celles qui sont transmises dans ce texte. Du coup, on souhaite bien du courage aux personnes qui sont encore incarcérées, aux personnes qui sont en contrôle judiciaire et aux personnes qui les aident dans la vie de tous les jours.
Ouais, je crois qu'il y a aussi un blog qui s'appelle « Soutien aux inculpés du 8 décembre » sur lequel on peut aller et du coup s'informer sur ce que les personnes ont envie de raconter et de voir du coup aussi sur ce blog-là les différentes manières de soutenir et de relayer des infos si on a envie.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et on va commencer cette rubrique internationale en allant du côté de la Colombie où il y a des énormes émeutes et surtout une énorme répression depuis plus d'une semaine. Donc en Colombie, la mobilisation ne cède pas, mais les brutalités policières malheureusement non plus. Il y a des agents qui tirent à vue sur les piquets de grève, qui tabassent des personnes à terre, qui incendient des maisons ou matraquent à moto. Il y a l'armée qui prend position dans les villes et les campagnes du pays. Et oui, la grève générale entamée il y a une semaine en Colombie a pris une tournure extrêmement violente. Malgré le retrait ce week-end du projet de réforme fiscale à l'origine de la mobilisation et la démission du ministère de l'économie, le mouvement de contestation s'approfondit, alors que le président, Iván Duque, s'efface de plus en plus derrière le chef des armées, Eduardo Zapatero. Un bilan des manifestations qui ont démarré le 28 avril fait déjà état de 37 morts et plus de 850 blessés. Il y en a sûrement beaucoup plus. Il y a des cas de disparition qui sont signalés de plus en plus et des violences sexuelles qui sont également dénoncées. C'est des dizaines de milliers de Colombiens et de Colombiennes qui manifestent ces derniers jours pour réclamer le retrait d'un projet de réforme fiscale présenté par le gouvernement en pleine pandémie. Les situations de mobilisation sont en fait multiples, se déroulant en plusieurs points des villes, avec également des blocages sur les routes. Il y a des étudiants et des étudiantes, des syndicalistes, des personnes qui font du transport, des mouvements autochtones, des paysans et des paysannes et afrodescendantes qui se sont unis aux quatre coins du pays. Quand une marche arrive dans le centre de Bogota, une autre, à son extrême nord, cherche à atteindre la maison du président Duque, située dans les beaux quartiers. Aux fenêtres, au passage des cortèges, des moins jeunes se montent pour entamer des cacerolazos, c'est des concerts de casseroles, et encourager les marcheurs et les marcheuses. Cali, troisième ville du pays, est l'épicentre du mouvement. C'est aussi l'endroit où la répression s'est abattue le plus violemment, notamment la nuit, dans les quartiers populaires, quand la police débute ses rondes. Bien que la mobilisation ait été majoritairement pacifique, il y a eu des scènes de violence qui se sont produites à Bogota, Cali, Medellín, ainsi qu'à Pasto. Dans cette ville du sud-ouest de la Colombie, 6 agents de l'ESMAD ont été victimes de brûlures jeudi au cours d'affrontements et les autorités ont offert une récompense équivalente à 13 400 $ pour toute information permettant l'arrestation des responsables. Dans ces 4 villes, le couvre-feu et des mesures de confinement ont été à nouveau imposées en raison d'une troisième vague de Covid-19 qu'affronte la Colombie, avec près de 3 millions de cas, dont plus de 73 000 morts, répertoriés à ce jour sur une population de 50 millions d'habitants et d'habitantes. Sous la pression des manifestations massives, mercredi dernier, donc pas ce mercredi-là, mais mercredi d'avant, et qui se sont répétées les jours suivants, avec une ampleur diverse selon les villes, le président conservateur Iván Duque a quand même annoncé du coup dimanche soir le retrait de sa réforme fiscale en cours d'examen au Parlement. Mais en dépit de ce retrait annoncé, les manifestations ont continué dans les rues de Bogota depuis lundi, bloquant la circulation sur certaines avenues. Le comité national de grève, à l'origine de la mobilisation initiale, a appelé à manifester de nouveau ce mercredi, bien que la plupart des grandes villes soient sous le coup de restrictions de déplacement. Le gouvernement avait présenté en fait le 15 avril au Parlement son projet de réforme fiscale visant à accroître les recettes de l'État de l'équivalent de 6,3 milliards de dollars supplémentaires entre 2022 et 2031 pour financer les dépenses publiques de la quatrième économie d'Amérique latine. La Colombie est confrontée à sa pire crise économique en un demi-siècle, avec une chute du produit intérieur brut de 6,8% en 2020 et un chômage officiel à 16,8% en mars. Alors que près de la moitié de la population active de ce pays vie de l'économie informelle, la pauvreté s'est aggravée de 42,5%. Mais du coup, au milieu de cette crise, c'est quoi la réponse du gouvernement? C'est bien essayer de faire des réformes qui vont encore plus appauvrir la population et surtout la répression. Selon une déclaration de l'ONG Temblores, il y a eu au moins 940 cas de violences policières dans le pays entre le matin du 28 avril et la nuit du samedi 1er mai. Cette organisation, par le biais de sa plateforme de plainte pour abus policiers, GRITA, créée pour garantir les droits des minorités en Colombie, a signalé entre le 28 avril et le 3 mai à 10h 1180 cas de violences policières. On a du mal en fait à toutes les compter, mais c'est pour montrer la force de la répression. Mais malgré ça, du coup, comme je vous l'ai dit, depuis mercredi, le peuple colombien est en grève nationale. C'est quand même, moi je trouve assez fort ces mots-là qu'on hurle parfois nous en manifestation, mais qu'on a rarement, comment en tout cas, j'ai jamais vu. Donc cette grève, comme je vous l'ai dit, ça a une origine de la réforme fiscale. Mais aussi du coup toute la répression là qu'il y a et du coup la non prise en compte du peuple et enfin du peuple de la population colombienne et de ses revendications. Tout ça pour vous dire que face à la répression, il y a aussi des comités de soutien locaux qui se mettent en place et notamment à Lyon demain il y a un rassemblement à 12h place Bellecour pour dénoncer les violences dont les violences du gouvernement colombien et pour soutenir du coup les revendications de la population colombienne. Donc vous pouvez vous rendre demain à Bellecour à 12h.
L'invisible est disponible, libre et irréductible.
Canu Info.
L'invisible est disponible, libre et irréductible.
Actu féministe. Canu Info du vendredi.
Avant de parler du Mexique, je vais faire un petit lien, puisqu'il y a eu encore une fois cette semaine un féminicide, news assez horrible, vous l'avez sûrement lu, le 4 mai, en fin de journée, une femme de 31 ans a été tuée en pleine rue devant son domicile près de Bordeaux. L'auteur des faits, c'est son ex-mari qui a d'abord mis le feu au pavillon avant de tirer dans les jambes de la victime et de la brûler vive dans la rue devant chez elle. C'était pas la première fois et pas la première plainte. Le couple était séparé et la femme avait donc maintes fois tiré la sonnette d'alarme. Dans la nuit du 3 au 4 mai, une autre femme âgée de 26 ans qui a été retrouvée morte dans les escaliers de son immeuble à Chartres. Ces deux féminicides portent à 39 le nombre de féminicides cette année en France perpétrés par un compagnon ou ex-compagnon depuis donc, le début de l'année, selon le comptage effectué par les collectifs féministes. En France, près de 1400 femmes ont été tuées en 10 ans par leur compagnon ou ex-compagnon, le plus souvent au moment d'une séparation. Le constat est assez glaçant, les femmes représentent plus de 80% des victimes d'homicides conjugaux et la plupart de ces meurtres auraient pu être empêchés si la société avait su répondre aux nombreux signaux d'alerte qui les ont annoncés. Et du coup, ça me permet de faire, enfin ça me permet, c'est un peu maladroit, de faire un parallèle pour vous parler d'un docu qui est accessible en ce moment sur Arte, parce que malheureusement, il n'y a pas qu'en France qu'on se fait tuer parce qu'on est une femme. Et au Mexique, par exemple, ce sont 4000 femmes qui meurent assassinées chaque année. Le chiffre est assez effrayant. Alors pour riposter et faire face, certaines femmes choisissent la violence. Dans ce pays, certaines s'organisent en bloqués négros, des black blocs féministes de lutte contre le patriarcat. Vêtues de noir de la tête aux pieds, cagoulées et organisées, ces féministes du bloqué négro exigent le respect des droits des femmes. La juriste Patricia Olamendi, qui a fait inscrire dans la loi mexicaine la notion de féminicide, soutient le mouvement. Selon elle, la situation actuelle exige des moyens radicaux de lutte. La génération précédente marchait dans silence. Celle-ci se lève, pille, casse et utilise la violence à son avantage. La mobilisation est massive et assez inédite. Les réseaux sociaux permettent d'unifier les différents bloqués négros et de dénoncer cette situation intolérable. Comme je le disais, c'est en 2019, près de 4000 Mexicaines ont été assassinées, dont seulement 976 qualifiées de féminicides. Et 99% des meurtres de femmes restent impunis. Depuis 6 mois, ces femmes ont installé leur quartier général dans un édifice public de la Commission nationale des droits de l'homme. Pris d'assaut, il est devenu un refuge pour des femmes victimes d'agressions, venues de tout le Mexique. Surprotégé, aucun homme ne peut y entrer. Le bâtiment occupé devient un espace d'indépendance et d'autogestion, de vie communautaire. Fresques, cuisines partagées, mais aussi cours d'autodéfense permettent à ces femmes de reprendre confiance en elles et de réaliser la force qu'elles ont pour se battre. Plusieurs fois par semaine, elles installent dans la rue un péage illégal pour récolter l'argent nécessaire aux frais de vie. Mais c'est aussi, disent-elles, un moyen d'inspirer la peur et de retourner le rapport de force. Un ennemi particulier, c'est aussi la police. Dans un pays où la corruption et l'immobilisme politique sont monnaie courante, elles n'hésitent donc pas à attaquer les voitures de police stationnées dans leur quartier. À la question de la peur d'être emprisonnée, elles répondent toutes, et je les cite, « On a plus de chances d'être tuées par un homme que de finir en prison ». Et donc c'est dans le reportage qui s'appelle « Mexique, bloqué négro, la révolution féministe » qui est diffusé sur Arte, qu'on vous conseille, qui est faite par Manon Hurtel, qui nous immerge donc pendant 13 minutes dans le quotidien des bloqués négros du Mexique, pour qui l'homme est une menace à combattre par les armes. Des fois que ça donne des idées, on vous invite à le regarder.
Trop bien.
Voilà, c'est à toi maintenant.
Pardon. Moi, c'est moins ouf. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est ça qui sont ouf. Ouais.
Vas-y, bah, tu nous amènes où?
Ah, bah, moi, je nous emmène à Montréal pour le 1er mai. Où, bah, oui, c'est vrai que ça paraît nul. Du coup, il y a un technopôle qui a été pété. Bon, tu vois, je vais vous raconter quand même.
C'est pas mal.
Non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Et surtout, si on compare avec notre 1er mai à nous, à Montréal, qu'est-ce qui se passe pour le 1er mai? Eh ben, chaque année, il y aura une manifestation anticapitaliste qui est organisée par un truc qui s'appelle la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes. Ça se rassemble au Parc Jarry, on s'en fout un peu, mais bon, c'est un endroit à Montréal. Et le mot d'ordre cette année, c'était pas de retour à la normale. Déjà, dès le début de la manif, il y a des feux d'artifice qui sont balancés, des cônes de construction qui sont utilisés pour bloquer les flics qui essayaient de suivre la manif. Et les policiers, a priori, ne semblaient pas préparés pour le trajet choisi. Et du coup, il y avait de moins en moins de flics autour de la manif. La manif, à ce moment-là, en profite pour passer sous un viaduc. Et au moment où il passe sous le viaduc, il craque des dizaines de fumigènes et il balance, alors ils appellent ça des pieds de corbeau, j'imagine que c'est des choses pour empêcher que les bagnoles passent et que ça crève les pneus, quoi. Donc du coup, il y a un viaduc, plein de fumée et des trucs pour crever les pneus. Du coup, tous les flics se retrouvent coincés de l'autre côté du viaduc. Ils peuvent plus passer. La manif continue et en fait, ce viaduc bloque toute... Enfin, c'était... il y a vraiment une route pour passer, pour rentrer dans ce quartier-là. Et ils ont mis 4 plombs à refaire tout le tour. Ce qui fait que du coup, la manif s'est retrouvée d'un coup, comme ça, maîtresse un petit peu de tout un quartier. D'autant plus que les manifestants et les manifestantes ont construit un peu pas mal de barricades empêcher d'autres flics d'arriver. Ils ont pu continuer à accélérer un petit peu. Et alors pourquoi ça? Parce qu'en fait les manifestantes en ont marre que la police entoure les manifestations, se déplace sur les côtés, filme, intimide, suivent de près avec des dizaines de camionnettes de policiers anti-émeutes prêtes à gazer à tout moment. Et donc souvent c'est vrai que quand il se passe ça, on a tendance à entamer des confrontations directes. Et là la stratégie du jour, ça a été de les semer avec un peu d'inventivité, de prévoyance et d'intelligence collective. Cette manif a pu laisser les flics loin derrière. Elle s'est donc dirigée vers l'épicentre du secteur de l'intelligence artificielle de Montréal. Donc je vais vous dire un peu ce qu'il y a dedans, mais du coup, dans ce technopole, là, il y a un truc qui s'appelle MILA, qui est un institut de recherche de l'Université de Montréal qui collabore avec Google et Facebook. Thales, avant qu'on connaisse, ça, c'est une compagnie française de défense et de sécurité. Le laboratoire d'intelligence de la Banque Royale du Canada, enfin plein de trucs comme ça, plein de start-up, plein de laboratoires, de trucs un peu de la nouvelle intelligence technophile. Tout ce quartier s'est fait déboîter, les vitrines ont été brisées, des fumigènes ont été balancés dans l'immeuble qui a commencé à cramer de partout. Il y a eu tout un tas de mobilier urbain qui a été tout pété. Et dès qu'il y a eu des flics qui se pointaient, et ben, comme il n'y en avait pas beaucoup, ils se sont fait repousser par le cortège. Et la manifestation s'est ensuite dirigée vers un petit parc. Tout le monde s'est dispersé tranquillement. Et il y a eu... alors bon, ils font croire qu'il n'y a pas eu d'interpellation. Peut-être qu'il y a eu peut-être un petit peu d'interpellation quand même. Mais voilà, on se dit que des fois le 1er mai, on peut quand même un petit peu déborder les cordons de flics. Peut-être pas en rentrant à la confrontation directe, mais en essayant de trouver des petits moyens de les semer et d'aller attaquer des choses, que, pas à l'endroit où on nous demande d'aller les attaquer et pas de rester forcément à l'endroit où le spectacle de la manifestation doit se dérouler.
Voilà, et du coup tout de suite un peu de musique, on reste au Québec.
Santé.
Kumbaya, my lord, Kumbaya. Quand ils coupent dans les programmes sociaux qui demande aux pauvres de travailler plus pour que les riches payent moins d'impôts. On se stache tous ensemble dans les bureaux de la loto, puis on chante des beaux slogans. On est ben belle, on est ben beau. Et on reste, on reste, on reste pacifique. Oh oui, on reste, on reste, on reste pacifique. Quand ils nous demandent gentiment de partir, que les gardes nous approchent un peu pour pas que la situation empire. Ils nous sifflent à l'oreille un doux avis d'éviction. Les policiers courent à l'appel pour faire leur job avec passion. Et nous on reste, on reste, on reste pacifique. Oh oui, on reste, on reste, on reste pacifique. Quand l'ancien meute rappelé pour nous protéger des méchants, ils tapent sur le bouclier, ils sont pas bien tête avec nos slogans. Et on se met à genoux, les médias vont prendre des photos. Fait qu'on fait des oreilles de lapin, on est rebelles, on est prophètes. On reste pacifique. Ah oui, on reste, on reste, on reste pacifique. Vu qu'on fait des signes d'épices, c'est plus comme du point de Cayenne. On s'amuse, on est festif en citoyens et citoyennes. Et ils tabassent des militants, ils foutent toute leur violence. Ils les arrêtent arbitrairement pour en faire passer trois jours en dedans. Et nous on reste, on reste, on reste pacifique. Oh oui, on reste, on reste, on reste pacifique. Ils nous envoient des flashbombs qui nous explosent dans la gueule. Nos amis se font péter des membres. Y'en a même un qui perd un œil. On dérange rien de rien. On reste pacifique, on casse rien. On veut pas troubler l'opinion publique. On dérange rien de rien. On reste pacifique, on casse rien. On veut pas troubler l'opinion publique. Quand ils flingueront un cégepien un peu trop idéaliste, on va peut-être se dire mine de rien qu'il serait temps qu'on réagisse. Parce que ça reste, ça reste, ça reste et ça s'explique. On est des riches et des fascistes. Parce que ça reste, ça reste, ça reste et ça s'explique. On est des riches et des fascistes. On reste en beau calice.
Oh oui, on reste.
Reste, on reste,
on reste en beau calice.
fais quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et oui, ou un petit test pour savoir si vous avez bien suivi ce Canu Info, parce que normalement, vous savez déjà ce que vous faites, et notamment, demain midi, rendez-vous pour un rassemblement Place Bellecour pour dénoncer les violences du gouvernement colombien et soutenir la révolution sociale sur place. Et après ça, ça on vous l'a pas dit, c'est un inédit, vous pouvez vous rendre Place Lazare Goujon, c'est la place qui a devant le TNP, ce théâtre occupé, si vous avez suivi, qui a occupé le... Carrefour cet après-midi pour des redistributions. Et du coup, demain, vous pouvez vous rendre sur cette place l'après-midi. Pourquoi ? Pour vous renseigner sur ce grand événement qui est prévu le 5 juin à Nice. Le 5 juin à Nice, prévu un grand rassemblement transnational tout aux frontières. Une mobilisation transnationale et féministe pour dénoncer les politiques migratoires européennes. Cet appel, il a été lancé depuis l'Assemblée féministe de PACA, du coup de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et depuis, plusieurs comités locaux se sont rapidement mis en place un peu partout. Il y a une antenne lyonnaise qui s'est créée, que vous pouvez donc retrouver demain de 14h à 17h au TNP de Villeurbanne. Pourquoi ? Pour vous renseigner sur cet événement, surtout pour peut-être regarder comment y aller, rencontrer les copines qui y vont pour y aller avec elles, et pour construire des cerfs-volants. Pourquoi ? Parce que c'est le symbole de ce grand rassemblement, dont l'idée est d'y aller avec plein de cerfs-volants. Vous pourrez également croiser la chorale féministe Les Branleureuses sur place, et je crois même qu'il y aura un espace garderie pour les enfants.
Et le Canu Info fait dans la pédagogie ce soir, parce qu'on vous rappelle que du coup, il y a un camping Déconfinons les frontières les 14, 15, 16 mai dans la Haute-Vallée de Suze. Et plus d'infos sur passamontagna.info.
Bonjour, je m'appelle Lily et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la plus nulle des radios.
Comme on sait que vous n'avez pas pu nous appeler puisque le numéro de téléphone qu'on vous a donné est relié à un téléphone débranché, on a trouvé pour vous ce soir ce que veut dire ACAB. Et donc ce soir, ce que veut dire ACAB, par exemple, ça peut être avec les Colombiens et Colombiennes qui s'activent à Bogota.
Mais ça peut aussi vouloir dire « allons camper et annulons le bac ». Ou la bac.
Mais alors, on m'a soufflé que ça pourrait dire « on adorerait une CGT qui s'allie avec le Black Bloc ».
Putain, ça ferait un super jeu ça, le bac, la bac ou les deux. Et tout de suite... ça sera l'émission qui a déjà son bac, mais qui en profite pour continuer à écouter la musique de quand ils étaient au lycée. Et bien sûr, c'est Noise Pollution, cette magnifique émission de métal.
Voir un peu de bande continue pour vous préparer. À la semaine prochaine.
Salut.